Vous écoutez On lit pour vous.
Quels sont ces corps flottants parfois présents dans vos yeux? Un texte de Morgane Petit, paru le 21 décembre 2025 dans Science et vie. Des vers dans vos yeux? Non, ce n'est pas un film d'horreur. Malheureusement, ça peut parfois arriver. Cependant, c'est très rare. Et ce n'est pas parce que vous voyez des espèces de taches qui semblent se mouvoir dans votre œil que vous êtes infecté. En réalité, ces taches traduisent une affection bénigne de l'œil, sans gravité, et qui ne nécessite que rarement un traitement. Pour autant, les parasites dans les yeux, oui, ça existe. Des vers ou des mouches dans les yeux? Rassurez-vous, il y a très peu de risques que vous ayez des mouches ou des vers dans les yeux. Par contre, des petites choses qui se baladent, ça, c'est tout à fait possible. En effet, plusieurs personnes se plaignent parfois de voir des petites formes irrégulières qui se déplacent lentement dans notre champ de vision. On parle souvent de corps flottants. Ils apparaissent lorsqu'un objet se trouve à l'intérieur de notre œil et projette une ombre sur notre rétine. Cette dernière est la structure sensible à la lumière et qui se trouve au fond de l'œil. Il ne s'agit en rien de parasites ou autres particules venues de l'extérieur. Ces fausses mouches se présentent sous différentes formes. On peut observer des petites taches sombres ou points noirs, des fils ou filaments, ou encore des espèces de vers, ou même des fragments qui ressemblent à des toiles d'araignée. Mais là encore, on vous le redit, aucun animal ou parasite n'a élu domicile dans vos yeux. Pour autant, il ne s'agit pas d'illusions d'optique. Ces petits fragments sont bien présents et sont en fait des débris qui flottent dans l'œil, plus précisément dans le corps vitré. Ce dernier est une sorte de liquide gélatineux, transparent et incolore, qui se trouve à l'intérieur du globe oculaire, entre le cristallin et la rétine. Avec le vieillissement de l'œil, on peut parfois observer un décollement postérieur de ce corps vitré qui se traduira par l'apparition des fameux débris et corps flottants. On parle d'une pathologie bénigne, la myodésopsie. La myodésopsie, des vers dans vos yeux dus au vieillissement. Ces vers dans vos yeux proviennent donc du vieillissement du corps vitré. Ce dernier va se liquéfier et son enveloppe se fragmente et se détache de la rétine. Le stress et la fatigue sont également responsables de la fragmentation, en particulier chez les personnes de moins de 30 ans. Les fragments, en se détachant, flottent ensuite dans la cavité de l'œil. Ce sont donc eux qui donnent naissance à ces fameux corps flottants. Parfois, des flashs lumineux peuvent aussi accompagner les corps flottants. Ils sont causés par des tractions exercées par l'enveloppe du corps vitré sur la rétine lorsque cette enveloppe se détache. Ces tractions sont traduites par le cerveau comme l'impression d'éclairs lumineux. Les vers dans vos yeux et les éventuels flashs sont donc les symptômes de la pathologie bénigne, la myodésopsie. Pour en être sûr, il est possible de réaliser un examen du fond de l'œil pour confirmer la présence des fragments et dépister d'éventuelles complications. En effet, normalement, cette pathologie ne nécessite aucune prise en charge et aucun traitement. Il n'y a pas d'impact sur l'œil ou la vision et ce décollement évolue favorablement. Les corps flottants diminuent progressivement, supprimant donc d'éventuels gènes occasionnés. Donc, si vous avez des vers dans vos yeux, très souvent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cependant, dans de très rares cas, il peut y avoir quelques complications. De très rares complications peuvent apparaître. Parfois, le décollement postérieur du vitré peut s'accompagner de complications. Cependant, elles restent très rares. Il s'agit principalement de déchirures ou d'un décollement de la rétine. Les déchirures rétiniennes se caractérisent par l'apparition de déchirures dans l'épaisseur de la rétine. On l'a vu précédemment, le décollement du corps vitré entraîne des tractions sur la rétine. Habituellement, ces tiraillements n'ont aucun impact. Mais très rarement, ils peuvent causer des déchirures sur la rétine. Ces déchirures peuvent, quant à elles, entraîner un décollement de la rétine. Le liquide du corps vitré s'engouffre dans la déchirure, s'insinue sous la rétine et la décolle de la paroi. En cas de décollement de la rétine, les patients se plaignent d'une perte de leur champ visuel, perte qui peut s'étendre avec la progression du décollement. Cela se traduit par l'apparition d'une zone sombre, comme un rideau qui obstrue le champ de vision. Le traitement des déchirures se fait par photocoagulation laser, une manière de souder la rétine à la paroi, ce qui empêche l'entrée du liquide dans la déchirure. Par contre, en cas d'un décollement de la rétine, il faudra opérer l'œil atteint. Quant au verre dans vos yeux, les corps flottants, il arrive dans de très rares cas qu'ils deviennent vraiment gênants. Il faut alors réaliser un traitement chirurgical pour supprimer ces corps flottants ou les tractions vraiment douloureuses ou dangereuses pour la rétine. Mais, pouvez-vous vraiment avoir des verres dans vos yeux? Eh bien, oui. Si les corps flottants ne trahissent en rien la présence de verres dans vos yeux, vous pouvez malgré tout être contaminé par des parasites. Il existe plusieurs parasites qui peuvent nous contaminer. On trouve notamment le nématode vert rond Loa Loa, endémique des forêts tropicales d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dernier est à l'origine de la loase, une pathologie due à la présence de ces parasites. La plupart du temps, les personnes parasitées n'ont pas de symptômes. Cependant, parfois, elles se plaignent de gonflements qui démangent sur les bras et les jambes. En outre, il arrive que les vers migrent dans les yeux, provoquant des douleurs et des gênes plus ou moins importantes. Seul un traitement médicamenteux permet de venir à bout du ver. Des mouches non piqueuses peuvent aussi parasiter les yeux des humains avec leurs larves. Les personnes infectées souffrent alors d'une ophtalmomyase externe. Les larves colonisent les tissus oculaires et provoquent des symptômes semblables à une conjonctivite aiguë. Habituellement, ces mouches ne colonisent pas les humains et le parasitisme se fait de manière accidentelle lorsque la mouche Mia heurte accidentellement l'œil de la personne et y dépose au vol ses œufs. Pour résumer, vous avez peu de risques d'avoir des vers dans vos yeux. La plupart du temps, il s'agira donc seulement de débris issus d'un phénomène naturel et bénin. Pas d'inquiétude. C'était « Quels sont ces corps flottants parfois présents dans vos yeux ?» un texte de Morgane Petit, paru le 21 décembre 2025 dans « Science et vie ».
Ces mythes sur l'attention qui nuisent à votre productivité. Un texte d'Oriane Polge, paru le 16 février 2026 dans Science et Vie. Les mythes sur l'attention influencent notre façon de travailler et de nous concentrer. Le cerveau traite des milliers d'informations chaque seconde. Mieux le comprendre permet de retrouver un équilibre face aux distractions. Les mythes sur l'attention ont envahi notre quotidien. Ils façonnent nos habitudes de travail, nos pauses, notre rapport aux écrans. À force de les croire vrais, ils nous éloignent du fonctionnement réel du cerveau. Pourtant, la concentration ne repose pas sur un effort héroïque. Elle demande un ajustement subtil à notre environnement. Mieux comprendre comment l'attention fonctionne permet de regagner en efficacité et en sérénité. Les mythes sur l'attention reposent sur une mauvaise connaissance du cerveau. Les mythes sur l'attention influencent notre vision de la concentration. On pense qu'il faut lutter, résister, faire preuve d'une discipline extrême. Cette idée repose sur une image erronée du fonctionnement cérébral. En réalité, le cerveau travaille déjà pour nous. Il trie, hiérarchise et filtre l'information en continu sans que nous en soyons toujours conscients. Selon un article publié dans The Guardian, le cerveau reçoit environ 11 millions de stimuli chaque seconde. Mais seule une infime part atteint notre conscience. Ce tri constant explique pourquoi nous sommes capables de rester concentrés même dans des environnements chargés. Pourtant, cette efficacité est souvent mal interprétée. Nous confondons perte d'attention et mauvaise gestion de l'environnement. Les spécialistes néerlandais Mark Tigschelaar et Oscar de Bos rappellent que le problème ne vient pas de notre capacité mentale. Il vient des conditions dans lesquelles nous l'utilisons. Résister à une distraction demande de l'énergie. En revanche, s'engager dans une tâche motivante ne demande presque aucun effort. Plutôt que de combattre notre cerveau, il faut apprendre à l'accompagner. Créer un cadre propice, limiter les sollicitations et écouter son rythme permet de restaurer une attention durable. Les mythes sur l'attention ignorent le coût réel de l'effort mental. Les mythes sur l'attention valorisent souvent la concentration permanente. Ils la présentent comme un idéal à atteindre à tout moment, quelle que soit la situation. Pourtant, cette vision oublie un aspect essentiel. Se concentrer mobilise des ressources limitées. Le cerveau ne peut pas rester en état d'alerte indéfiniment sans conséquence sur ses performances. D'après une étude publiée dans la National Library of Medicine, résister à une distraction exige plus d'efforts que de changer de tâche. Ce phénomène se nomme « résistance aux distracteurs ». Il sollicite fortement la mémoire de travail. Les chercheurs ont comparé deux stratégies mentales. La première repose sur un filtrage actif pour rester focalisé. La seconde permet d'actualiser plus souplement les informations selon le contexte. Ainsi, le cerveau préfère la souplesse à la rigidité car elle lui coûte moins d'énergie. Cela ne signifie pas qu'il faut céder à toutes les sollicitations, mais insister pour maintenir une attention forcée peut devenir contre-productif. Alterner les types de tâches, organiser ses journées en séquence claire ou prévoir de vraies pauses devient plus efficace. En respectant son rythme, on soutient ses capacités sans les épuiser. Les mythes sur l'attention nuisent à nos stratégies de concentration au quotidien. Les mythes sur l'attention influencent notre façon de travailler. Ils nous poussent à viser une concentration parfaite que certains appellent l'état de fluidité mentale, comme s'il suffisait de l'activer à volonté. Ils nous encouragent aussi à croire qu'enchaîner des tâches simples nous rendra plus productifs. En réalité, ces croyances fatiguent notre cerveau plus qu'elles ne l'aident. Changer d'activité en permanence, consulter ses mails entre deux réunions ou répondre à chaque notification fragmente l'attention. À chaque interruption, une partie de notre esprit reste bloquée sur la tâche précédente. Ce phénomène ralentit la reprise et augmente la charge mentale. Travailler en séquences longues, sans coupure, devient alors difficile, voire impossible. Pourtant, des solutions existent. Il suffit parfois d'un bureau allégé, d'un téléphone hors de vue ou d'une pause sans stimulation pour améliorer sa concentration. des rythmes plus souples, des journées organisées par blocs ou des tâches regroupées par nature facilitent l'équilibre. L'attention n'est pas un effort constant. C'est une ressource à ménager, à réguler et à respecter. En adoptant des stratégies plus réalistes, chacun peut retrouver une forme de clarté mentale et mieux gérer ses journées. C'était « Ces mythes sur l'attention qui nuisent à votre productivité ». Un texte d'Oriane Polge, paru le 16 février 2026 dans Science et Vie.
Démasquer la désinformation, un texte d'Eliette Lévy, publié le 11 janvier 2026 dans La Liberté. Le virage au numérique a depuis plusieurs années maintenant créé un paradoxe intéressant. Nous vivons dans une surabondance d'informations où la fiabilité se fait de plus en plus rare. Les termes « désinformation » ou « mésinformation » sont donc de plus en plus utilisés afin de décrire plus précisément le détournement des informations. Malgré leur orthographe similaire, la principale différence entre ces deux termes se trouve dans l'intention derrière la propagation de fausses informations. Par désinformation, on entend une information qui est propagée dans le but de désinformer. L'intention y est, dit Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation chez Habilo Média. Mais si moi-même je suis dupé par la désinformation et que je sens que je me dois de la partager, je suis en train de propager une mésinformation. Naviguer les fausses informations. Marc-Alexandre Ladouceur souligne d'abord l'importance de ne pas se laisser submerger par un processus de vérification trop compliqué. Non seulement les gens sont généralement intimidés à l'idée de devoir vérifier tous les faits, mais ils n'ont souvent pas les compétences techniques nécessaires pour le faire à chaque fois. Il recommande plutôt de prendre de bonnes habitudes en matière de vérification. Cela revient à adopter des pratiques de cyberhygiène en accord avec ses valeurs personnelles de navigation en ligne. La formation des habitudes va beaucoup avec ce qu'on fait avec les jeunes dans les écoles. Le langage des habitudes risque de donner une perspective et un but plutôt que juste des règles à suivre qui donneraient un cadre, mais pas nécessairement le pourquoi derrière. Par exemple, l'une de ces habitudes pourrait être de mettre en pratique le principe que si c'est assez bon pour être partagé, ça vaut la peine de le vérifier. Le fait de vouloir participer activement à la limitation de la propagation de fausses informations peut être un bon moteur pour activer le réflexe d'être plus prudent. Cette vérification peut être assez rapide. Habilo Média cite un processus rapide en 4 étapes. Effectuer une analyse rapide du lien partagé, trouver la source originale de l'information, faire une recherche Google pour voir ce qui est dit et utiliser des outils de vérification des faits comme Snopes. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de vérification en ligne, Habilo Média propose aussi une session de formation plus longue dans le cadre de son atelier « Faut que ça cesse », qui représente différents styles de vérification rendant la vérification des faits moins intimidante. Une bonne pratique à mettre en œuvre consiste à se poser les bonnes questions, ce que Marc-Alexandre Ladouceur appelle « l'humilité intellectuelle ». 1. Qu'est-ce qui fait que je veux croire à cette information ? 2. Qu'est-ce qu'il faudrait pour me faire croire autrement ? Et 3. Comment est-ce que la manière dont c'est communiqué me fait croire à cette information ? Et bien que chacun soit responsable de mettre en pratique ses compétences en matière de vérification en ligne et de pensée critique, les recherches montrent que les utilisateurs d'Internet plus âgés ont tendance à croire plus souvent aux fausses informations en ligne. Cela dit, les jeunes internautes ont tendance à avoir un volume de partage beaucoup plus important et des réseaux en ligne plus étendus. Les études démontrent donc l'importance d'une éducation à la littératie numérique forte dès le plus jeune âge, ainsi que d'un soutien et de ressources continues tout au long de la vie adulte. Désinformation et cynisme. Cela dit, la recherche indépendante peut être un couteau à double tranchant. Si beaucoup prônent le fait de faire ses propres recherches lorsqu'il s'agit de vérifier des informations en ligne, cette expression a souvent été détournée dans le but de discréditer toutes les informations que l'on trouve sur Internet. Les recherches ont démontré que le but de la désinformation, ce n'est même pas de faire croire à la fausse information, mais plutôt de réduire la crédibilité de toute source afin qu'il n'y ait aucune valeur à vérifier, même les sources que l'on considérait fiables auparavant. L'objectif est donc le cynisme. Et mettre l'accent sur la nécessité de faire ses propres recherches est un moyen d'atteindre ce but, dans la mesure où cela souligne le caractère peu fiable de toutes les sources. C'est une expression qui renverse le vocabulaire de la pensée critique afin d'imposer l'idée que toute information est coupable d'être fausse jusqu'à preuve du contraire. Si je suis assez cynique pour croire qu'il n'existe plus de sources fiables, je suis prêt à croire à peu près n'importe quoi qui résonne seulement avec mes valeurs parce que je deviens l'arbitre de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Faire ses propres recherches est une expression attrayante, mais Marc-Alexandre Ladouceur avertit que personne n'a la capacité de mener des recherches précises et approfondies sur la variété de sujets que l'on peut trouver en ligne. Personne n'est assez doué pour évaluer les sources et reconnaître les biais dans tous les domaines. Je n'ai pas la capacité d'aller lire un article d'immunologie ou de sciences politiques et de savoir si on a utilisé toutes les bonnes méthodologies. Ça ne fait pas partie de mon parcours, dit-il. Mais ça fait partie du parcours, par exemple, de ceux qui font des articles de vulgarisation. C'est aussi la spécialité des journalistes de faire le tri des informations. C'est là que les sources traditionnelles entrent en jeu. Même si les journalistes peuvent commettre des erreurs ou mal interpréter des études, ils sont généralement soumis à des codes déontologiques qui garantissent qu'ils devront assumer les conséquences s'ils publient des informations erronées. Marc-Alexandre Ladouceur met tout de même en garde contre le fait de se fier excessivement à une seule source, d'où l'importance de vérifier les informations à l'aide de plusieurs sources. Désinformation et IA. Bien sûr, l'introduction de contenus générés par l'intelligence artificielle en ligne a exacerbé la création et la propagation de fausses informations sur Internet, notamment les contenus hyper-truqués et les arnaques. Cependant, nous devons garder à l'esprit que la désinformation est un phénomène qui existait avant l'IA et qui peut être très néfaste sous toutes ses formes. Tout au plus, l'IA a simplement facilité la création de fausses informations plus crédibles. Cependant, la popularisation de l'IA est aussi devenue un puissant vecteur de mésinformation. Beaucoup peuvent, en agissant de bonne foi, demander à l'IA de produire des informations sourcées qui peuvent ne pas être exactes et diffuser involontairement de fausses informations alors qu'ils pensaient avoir effectué des vérifications nécessaires. Cela nous rappelle que l'IA est extrêmement susceptible à des hallucinations, le terme utilisé pour désigner les informations inventées par l'IA, même lorsqu'elles semblent être des informations réalistes. Marc-Alexandre Ladouceur souligne toutefois l'importance de l'IA en tant qu'outil qui a contribué à démocratiser l'accès à l'information dans la mesure où elle facilite considérablement la recherche d'informations. Les outils d'IA peuvent notamment combler le déficit de compétences des personnes qui ont des difficultés à écrire et à lire et qui rencontrent des problèmes de navigation en ligne. Si on continue de consommer de l'information de façon passive, c'est vrai qu'on peut penser à l'IA comme ceux qui font sonner l'alarme. Mais si on y va d'un point de vue critique et éducatif, je vois de belles possibilités. C'était « Démasquer la désinformation », un texte d'Eliette Lévy, publié le 11 janvier 2026 dans La Liberté.
L'amour suffit-il à faire durer un couple ? Un texte de José Galarno, paru le 13 février 2026 dans la presse. L'amour est souvent présenté comme le pilier central du couple. On le célèbre, on l'idéalise, on lui attribue bien des pouvoirs. Pourtant, aimer ne suffit pas toujours à faire tenir une relation dans la durée. Cette idée peut déranger, mais elle mérite d'être posée clairement. Ce qui fragilise de nombreux couples n'est pas l'absence d'amour, mais l'écart entre les attentes et la réalité du quotidien. Les chiffres rappellent que le phénomène est loin d'être marginal. Selon Statistiques Canada, près de 40 % des mariages au pays se soldent par un divorce et la majorité des séparations surviennent dans les 10 premières années d'union. Au Québec, l'Institut de la statistique du Québec observe aussi une instabilité importante des unions, mariées ou non. Ces données ne disent pas que les gens n'aiment plus, mais qu'aimer ne protège pas automatiquement contre l'usure relationnelle. Un des mythes persistants autour du couple est celui de l'amour qui devrait tout régler. On nous apprend que si les sentiments sont assez forts, le reste suivra. Comme si, une fois en couple, tout devait s'accorder naturellement. Or, la vie à deux met rapidement cette croyance à l'épreuve. Le quotidien révèle des différences de rythme, de priorité, de façon de communiquer et de prendre des décisions. Ces écarts ne sont pas spectaculaires au départ. Ils sont souvent discrets, mais cumulés, ils deviennent lourds. Beaucoup de couples s'essoufflent non pas par manque d'affection, mais parce qu'ils ne fonctionnent pas au même rythme. On n'avance pas au même rythme. On ne partage pas toujours les mêmes repères dans la gestion du quotidien. On n'accorde pas la même importance à la communication, au respect ou au choix commun. L'amour est toujours là, mais il se retrouve à porter un poids qu'il ne peut pas soutenir seul. Fonctionner ensemble. Être en couple, ce n'est pas seulement aimer, c'est fonctionner ensemble. C'est pouvoir se parler sans se blesser. Se respecter même dans le désaccord. Trouver des façons de traverser les imprévus sans que la relation devienne une source constante de tension. Lorsque ces bases sont fragiles, l'amour peut devenir un effort permanent plutôt qu'un soutien. Dans ce contexte, se questionner sur sa relation est parfois perçu négativement. On hésite à nommer ses doutes, de peur de remettre tout en cause ou de trahir l'engagement pris. Pourtant, le questionnement est souvent un signe de maturité et même d'un désir de poursuivre la relation en cherchant des façons de mieux s'ajuster. Il permet de prendre sa vie affective au sérieux, sans dramatisation ni culpabilité. Plusieurs spécialistes des relations conjugales soulignent d'ailleurs que les couples qui durent sont ceux qui prennent le temps d'ajuster leur fonctionnement plutôt que de miser uniquement sur les sentiments. L'observation de la durée des unions va dans le même sens. Ce n'est pas l'intensité amoureuse initiale qui fait la différence, mais la capacité à construire une relation viable dans le temps, capable d'évoluer et de s'adapter aux réalités de la vie à deux. À l'approche de la Saint-Valentin, peut-être gagnerait-on à élargir le regard. Au-delà des grands gestes romantiques, cette période pourrait aussi être une invitation à réfléchir à la qualité du lien que l'on construit. À se demander si la relation soutient ou épuise, si elle permet d'être soi ou oblige à s'oublier pour la préserver. L'amour est essentiel. Sans lui, il n'y a pas de couple, mais il ne suffit pas toujours. Lorsqu'il repose sur des bases bien alignées l'une à l'autre, dans la façon de vivre ensemble, il a beaucoup plus de chances de durer. Et reconnaître cette réalité n'enlève rien à l'amour. Au contraire, cela lui donne un terrain plus solide pour s'inscrire dans le temps. C'était « L'amour suffit-il à faire durer un couple? » un texte de José Galarneau, paru le 13 février 2026 dans la presse.